I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bienvenue dans Game of Thrones, les deux tours, la grande finale. Alors pourquoi j'ai pris un mauvais départ? Je vais vous dire pourquoi, ce n'est pas de ma faute. C'est que j'étais en train de dire, vous faites le décompte quand? Et puis je
suis
C'est aussi de ma faute, je ne suis pas un expert. Non, je suis pas un expert. Bonjour à tous. Alors tout le monde n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'on a commencé un peu plus tôt. Parce que Clément et Flo... L'angle droit et Clément sont en intervention, mais ils arrivent, ne vous inquiétez pas. À ma droite, exceptionnellement, j'ai Jean Massier. Bonjour Jean Massier, ça va ?
Bonsoir, ça va et toi ?
Oui, alors pour les gens qui ne te connaissent pas...
Les pauvres.
Que fais-tu dans la vie ?
Je suis streamer sur Twitch.
Voilà, mais qui a une spécialité ?
Une spécialité, c'est que je suis un Pokémon de type politique.
Voilà, donc tu fais des émissions politiques, notamment, je crois, le jeudi.
Le jeudi, une émission qui s'appelle Backseat, voilà. Le seul talk show d'actualité politique sur Twitch.
Twitch.tv/Backseat.
/Jean Massier.
Jean Massier,
non, c'est sur ma chaîne.
Ah, excuse-moi.
Donc Clément Viktorovitch, tu connais, voilà, les chaînes perso.
Non, mais là, en fait, c'est Klemovitch ici.
C'est Klemovitch.
En tout cas, merci de nous avoir accompagnés jusqu'à présent dans Game of Thrones, les deux tours. On est très contents de votre soutien, également des comités de soutien pour nos candidats qu'on va retrouver. Et en fait, on commence cette émission, vous avez vu, un petit peu plus tôt, mais un petit peu tard aussi dans le plus tôt, parce que des questions techniques, on vous débriefera tout ça, c'est très intéressant. Mais parce que, en fait, Jean va interroger nos candidats un par un, les quatre, même les deux autres vont arriver entre-temps, et il va les interroger en one-to-one sans pitié. Il va prendre ma place, il va faire comme si c'était des vrais candidats à la présidentielle, en leur demandant « Mais quel est votre programme? Comment ça se passe ?» Ils auront droit de faire des scandales comme les vrais politiques. Et ça vous permettra, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un Game of Thrones, les deux tours un petit peu spécial. On va faire le premier tour, mais aussi on va faire le deuxième tour à titre exceptionnel, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir... on va pas dire bah, celui qui a le plus de voix c'est le président, bravo. On va remettre les compteurs à zéro une fois qu'on aura deux finalistes, et les deux finalistes, ceux qui ont eu le plus de voix grâce à vous, ils feront un débat final. Et je vous en supplie, vous allez écouter ce qu'ils vont dire. Vous n'allez pas dire « Ah non, j'aime trop Charles de Spie, j'aime trop l'âme en vrai, donc je vote pour lui. »
Votez pour moi.
Voilà, vous allez vraiment dire « C'est ce programme qui me convainc, c'est ça qui va vraiment sauver la France. » Parce qu'à la fin, ce sera uniquement sur votre sondage à vous, 100% sur votre sondage, qui va décider qui sera le président ou la présidente de la République. Donc, la République française en 2022, voilà, on aura 15 jours d'avance sur la réalité. Je vous représenterai plus en détail qui est derrière l'équipe de production, quelles sont les spécificités du jour, etc. Mais je laisse tout de suite la parole à Jean, qui va prendre ma place. À tout de suite.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette grande finale, un instant politique très attendu et médiatique par nos concitoyens qui vont avoir à se prononcer sur les candidatures de nos candidats pour cette élection exceptionnelle dans un moment politique très particulier. J'ai le plaisir de recevoir le premier candidat pour cette interview exceptionnelle. Bonsoir Paul-Jacques Charenton.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre interview.
C'est bien normal.
Vous êtes le candidat donc de la France en fait.
Tout à fait.
Et votre slogan, le peuple en fait.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous qui représentez le peuple, Paul-Jacques Charenton ?
Écoutez, cela fait des années maintenant, évidemment, que je m'exprime pour le peuple. Voilà, ça fait maintenant, je ne sais plus combien d'années, qu'on est dans ce jeu politique ridicule où on favorise les plus fortunés. Le peuple est affamé, mutilé lors des manifestations, volé, tout ça au profit des plus riches. On l'a vu lors de la crise du Covid, qui s'en sont mis bien... plein les poches.
Mais ce peuple dont vous parlez, de quoi est-il le nom? Ce peuple, c'est vague. Tout le monde peut se revendiquer du peuple. Pourquoi vous plus qu'un autre?
Bah, écoutez, mon cher, comment vous appelez déjà?
Léo Salami.
Mon cher Léo Salami, écoutez-moi bien. Voilà. Est-ce qu'on veut vraiment re-signer pour 5, 10, 50, 100 ans de souffrance avec ces charlatans. Voici maintenant la 27e fois qu'on nous propose au second tour menées par qui ? Menées par la France bourgeoise, menées par une France mourante, mon cher,
oui, mais là,
mon
vous
cher
parlez,
Léo.
Là, vous
les gens veulent du changement,
candidats.
La jeunesse, il faut penser à la jeunesse qui mais cette fois-ci jeunesse, va être justement. Présente dans les urnes et ne se laissera pas marcher dessus par une France mourante qui ne veut juste protéger ses intérêts.
Parlons-en de la jeunesse. La jeunesse, elle souhaite l'écologie, notamment. L'écologie qui est au cœur de votre programme. Mais l'écologie, c'est pas partagé par tout le monde, ça ? Pourquoi ce serait encore une fois vous plus qu'un autre l'écologie ?
Alors, excusez-moi, mais vous pourrez demander évidemment à mes adversaires quels sont leurs programmes écologiques.
Et c'est à vous que je demande.
À part éventuellement jeter une brique de lait plus par semaine dans la poubelle jaune. Nous, notre programme écologique, il est clair et simple. C'est de tout simplement, nous avons entendu tous les rapports Oxfam et autres sur l'urgence écologique. Donc, nous voulons faire la transition, quitter le nucléaire. Au plus vite et pas repousser cette échéance.
Et
comme,
en combien de temps on quitte le nucléaire, selon vous, le plus rapidement possible ? En 4 ans, on éteint toutes les centrales, c'est ça, en un quart d'heure ? Comme vous avez pu le déclarer par le passé ?
Mon cher Léo, on va se calmer un petit coup, soyez réaliste, bien entendu. Nous espérons le faire sous 10 ans, tout à fait. Avec
10 ans, sortie du nucléaire en 10 ans.
Tout à fait.
Et la contrepartie, ce sera d'acheter du gaz russe en attendant ?
Comment ça, mon cher ?
Je vous pose la question, comment on fait pour avoir de l'électricité l'hiver prochain ?
Mais... C'est justement parce qu'on l'a fait en 10 ans que ça va être une transition progressive. Évidemment qu'on ne va pas fermer du jour au lendemain toutes les centrales. Il va falloir faire cette transition. Faire une transition aussi des personnels qui travaillent et les reformer pour construire un maximum d'énergie renouvelable, toutes les sources d'énergie renouvelable possibles que l'on connaît, et aussi éduquer, bien entendu, les utilisateurs, les Français, à justement ne plus agir comme s'ils avaient un potentiel d'énergie illimité où personne n'avait de responsabilité, tout simplement.
Vous êtes décroissant, Paul-Jacques Charenton. Vous souhaitez la décroissance ?
Comment ça ?
Le recul ?
Mais pas du tout.
La fin de la production économique ?
Et écoutez...
Votre écologie révolutionnaire, c'est votre programme que j'interprète.
Vous êtes à la solde de qui ?
Du public.
Mon cher Léo Salamy, notre programme est chiffré, bien entendu, vous le savez. Tout ceci est consultable. Bien entendu que nous avons... c'est ambitieux. Ça coûte de l'argent de faire une transition écologique propre. Évidemment, de donner des ressources convenables nos millions de Français sous le seuil de pauvreté ou en situation précaire, mais cet argent, il est trouvable, notamment par ces gens qui sont cannibales de la planète et des ressources financières de ce monde.
Et alors, c'est ces gens-là qui vont financer. Mais alors, quel est le nom de ces personnes que vous allez faire payer cette transition dont vous parlez ?
Les riches, ultra riches, les ultra riches principalement. On sait très bien que pendant la crise, ils ont doublé leurs fonds pendant que tout le monde était en train de crever dans le caniveau. Excusez-moi des termes un peu forts, mais c'est toutes ces évasions fiscales, ces ponts d'or pour les actionnaires et autres, tout la permissivité qui a été permise par notre gouvernement en place et qui serait permise par les opposants entre guillemets à qui on doit faire barrage. Eux, ce ne sont que des mesurettes et puis plutôt des poignées de main en backstage. L'impôt sur la fortune, évidemment qu'on le remettra. Des tranches d'impôts, bien sûr, notre programme prévoit 72 tranches d'impôts afin évidemment d'une distribution des impôts optimale et équilibrée.
Et à combien on commence à payer des impôts ? À partir de quel salaire on est imposé dans votre France idéale ?
Eh bien, nous ne
Qui
sommes
sera
pas...
imposé les ménages, les automobilistes, les jeunes ?
Les impôts, alors les jeunes ne paieront pas d'impôts avant 25 ans. Et pour ce qui est de la tranche d'imposition, on commencera à payer des impôts à partir de 3 000 euros, mais sur une tranche très faible.
3 000 euros, d'accord.
3 000 euros de revenus, donc voilà.
Paiement des impôts.
Tout à fait.
Très bien. Vous voulez renverser la table, on peut se dire les choses assez franchement. Vous êtes un candidat ambitieux, vous voulez tout casser ?
Tout casser, non, justement. Je veux que tout le monde vive en harmonie, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de 250 millions sur son compte pour vivre convenablement et en harmonie avec le peuple.
Non, ma question, c'était comment est-ce que vous allez respecter la forme démocratique du gouvernement ? Est-ce que vous autoriserez les manifestations d'opposants ? Est-ce que vous allez être un autocrate ou un démocrate ?
Non, mais bien entendu que tout le monde... au contraire, nous sommes plutôt pour la participation et la démocratie. Bien entendu, tout le monde pourra exprimer ses mécontentements. On va essayer justement d'être beaucoup plus dans la démarche de la consultation citoyenne. Et bien entendu, je ne vous propose pas un programme d'un autre temps, ni des goulags.
Vous proposez d'augmenter le SMIC.
Tout à fait.
De ce que j'ai compris, directement.
Oui.
Dès votre élection.
Oui.
C'est pas un peu démagogue, ça, comme proposition? Comment on les finance, l'augmentation du SMIC pour les petites entreprises, les restaurateurs, les commerçants, les agriculteurs? Comment ils font?
J'aime bien votre style, vous y allez.
C'est un métier, c'est un métier,
Léo
monsieur.
Salami, on
c'est
fait,
Léo hein. Bourdin.
Jean-Jacques Bourdin, ouais.
Bien, c'est très simple. Nous n'allons pas abandonner les petites PME, les petites entreprises. Nous allons évidemment accompagner. C'est une transition qui doit se faire. L'État doit être présent. Mais là, on parle plutôt des énormes groupes qui font des profits records. Ramener l'imposition en France sur ces gros groupes, d'ailleurs, qui font tous les efforts pour éviter notre imposition. Renationaliser aussi, mais ça, c'est plus à moyen terme. Beaucoup de choses. Enfin, c'est assez délirant de privatiser, que ce soit le transport, enfin plein de services qui devraient être publics et justement supervisés par l'État. Il y a beaucoup de... On va dire que c'est, ça peut paraître démagogue et délirant de donner un SMIC à autant de gens et de donner un minimum jeunesse.
Ça paraît à beaucoup de gens.
Mais pourtant... Ce n'est pas si dur que ça à financer quand on sait tout l'argent qui passe sous la coupe de l'État. Et ça ne profite qu'à des gens qui en ont déjà beaucoup trop.
Si vous ne remportez pas cette élection, pour qui appellerez-vous à voter au second tour, Paul-Jacques Charenton?
Écoutez-moi bien. Comme j'ai combattu Stanislas Lagolzituni au premier tour, bien évidemment... Aucune voix ne devra aller à Charles de Spi et son délire royaliste numérique. Voilà. Ça, il en est hors de question. De toute façon, l'écologie, lui, je pense que son programme, c'est de détruire la planète au plus vite. Peut-être pour aller sur Mars, on ne sait pas, ou devenir une entité virtuelle. Il en est hors de question.
Il nous le dira tout à l'heure. Ne parlez pas à sa place, il nous le expliquera.
Voilà, bien entendu.
En tout cas, pas une voix pour Charles de Spi.
Bien entendu.
Votre barrage.
Le barrage est là. Ensuite, comme dit, bien entendu, Églantine Arnoux, vous l'aurez en interview peut-être pendant 3 heures.
Donc
peut-être qu'il y aura un début de programme. Au bout de 3 heures, vous aurez peut-être deux mots, un truc, un projet. Ça a été quand même un quinquennat d'une violence incroyable. Donc évidemment que je ne suis pas du tout solidaire et je n'aimerais pas appeler à voter pour elle, mais quand même. Charles de Spi, c'est quand même trop dangereux. On sait, j'ai déjà vu, enfin, des gens ont commencé un petit peu à faire du data mining pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cette sphère numérique que personne ne comprend. Et j'ai vu des choses très inquiétantes. On ne serait pas loin d'un putsch avec cette personne.
Alors, Léo, vous pouvez demander le mot de la fin à votre interviewé et passer ensuite à Charles.
On va conclure avec une toute dernière question. Avez-vous des regrets quant à cette campagne? La vôtre?
Des regrets, eh bien écoutez, on peut toujours avoir des regrets. On a essayé d'être partout, d'en faire le plus possible, de bien montrer qu'on était là pour les classes populaires qui souvent, parce que la gauche les a abandonnées trop longtemps sur les décennies passées, pourraient se dire qu'avec l'extrême droite, il y a un changement possible, quelque chose à tester. Mais la réalité, mon cher Léo Salami, c'est qu'on le sait très bien, toutes les mesures... des programmes, notamment d'Églantine Arnoux, mais aussi et surtout de Charles de Spi, sont plutôt liberticides et à la faveur des classes les plus aisées.
Merci Paul-Jacques Charenton, vous êtes le candidat de la France en fête et votre slogan c'est le peuple en fête. Merci d'avoir accepté notre interview.
Merci à vous.
Nous allons passer à l'interviewé suivant, donc un autre candidat qui a accepté notre invitation et je l'en remercie. Il s'agit de Charles de Spi. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Charles de Spi, vous êtes le candidat du Rassemblement National pour une royauté numérique et votre slogan, notre programme, le programme. Bonsoir.
Je tenais à dire que je n'ai pas accepté votre invitation. Elle m'a été imposée par Radio France. Voilà. Donc, je tenais à dire que j'avais choisi d'autres journalistes qui sont, je pense, plus corrects, mais qu'on m'a imposé votre présence, alors que j'avais bien demandé de ne pas avoir Anne-Sophie Lapix ou Jean Massier.
Nous sommes sur le service public, monsieur, nous sommes au service du public, donc vos électeurs potentiels, nous vous donnons l'opportunité de venir vous exprimer devant eux.
Je tiens à dire que vous faites comme des émissions où vous choisissez vos invités, et étrangement, dans vos émissions, il manque un courant qui pèse plus de 35% des électeurs en France, et que d'autres intervieweuses sont peut-être plus ouverts et justes que vous. Donc j'avais demandé voilà, être interviewé par Guillaume Play, Cyril Hanouna ou Thinkerview. Et je tenais à dire, pour la transparence, que j'ai accepté parce que je suis une personne correcte, mais que je trouve cela un peu paradoxal.
Vous parlez de démocratie. En démocratie, ce sont les journalistes qui choisissent d'inviter ou pas, et les politiques qui sont libres d'accepter ou pas. En tout cas, parlons-en justement de démocratie. Vous proposez de renverser la table, vous aussi. Vous voulez quitter la démocratie.
Tout à fait. Mais contrairement à M. Charenton, pas de manière molle. Voilà, de manière total. La disruption, ce n'est pas une histoire de Startup Nation. La vraie disruption, c'est d'arrêter de fantasmer sur une République 6, mais de s'adapter sur une royauté 2.0. C'est important et je pense que le peuple français l'a vu durant ce premier tour. Encore une fois, c'était une non-campagne, c'était une mascarade, c'était un culte de la personnalité. Il n'y avait pas d'argument et Mme Arnoux vous le prouvera dans l'interview qui va suivre. Donc à un moment, je le redis encore une fois, arrêtons de nous voiler la face avec des élections démocratiques qui ne sont jamais vraiment démocratiques, et revenons à un système qui était peut-être moins sexy en théorie, mais qui marchait bien.
Vous parlez de démocratie, c'est intéressant. Vous fustigez le culte de la personnalité. Qu'est-ce que c'est qu'une royauté, si ce n'est le culte absolu de la personnalité contre la démocratie?
C'est tout l'intérêt de Verse AI, donc mon programme de gestion qui sera un roi, et ça fera plaisir à nos amis les wokistes, islamo-gauchistes. C'est un roi non genré, parce que c'est littéralement un programme. Et justement, il n'y a plus de culte de la personnalité. On arrête de faire des élections sur qui sort les meilleurs mots comme Jean-Luc Mélenchon ou qui est le plus mignon comme Emmanuel Macron. Non, à un moment, on vote pour un programme et on arrête de voter pour le plus rigolo des délégués de la classe. C'est pour ça que, encore une fois, je ne serai que la main du roi. Le roi sera un programme.
Vous proposez de sortir de l'euro pour passer à la crypto. Comment est-ce que vous convainquez vos partenaires européens?
Alors, déjà, il n'y a pas à convaincre nos partenaires européens. Nous avons parfois des partenaires en Europe et parfois des concurrents en Europe. Je vous rappelle que l'Europe est un piège. L'Europe est un piège dressé par l'Allemagne et c'est un piège dans lequel tous les royaumes de l'Europe, de l'Ouest et du Sud sont tombés. Nous sommes aujourd'hui avec l'Espagne, l'Italie et d'autres sous le joug économique et politique de l'Allemagne qui, en fait, dirige de main de fer cette Europe. Je voudrais sortir de cette Europe.
C'est un piège, mais c'est aussi un marché commun auquel ont accès toutes nos entreprises. Vous dites ce soir aux entreprises françaises qu'elles n'auront plus accès au marché commun, plus d'exportation en Europe.
Il y aura toujours de l'échange, mais nous ne serons pas sur un échange unifié et qui se fait au hasard, à l'avantage de certains pays qui tourneraient au hasard entre Berlin et Rotterdam.
Mais la crypto, c'est mondial, on est bien d'accord. C'est sur Internet, c'est mondial. Tout le monde peut y avoir accès, finalement. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une Europe
au
niveau mondial ?
Monsieur Salami, écoutez, la crypto, elle est ce qu'on en fait. Ça peut être un programme. On peut programmer une crypto de manière extrêmement précise. On peut programmer une monnaie de manière très précise. On peut inclure dans des smart contracts des taxes selon les alliés ou pas, selon les pays avec lesquels on échange, selon les types d'activités. Évidemment, l'intérêt d'avoir une monnaie souveraine et une monnaie électronique et une monnaie programmable et une monnaie gérée 24 heures sur 24 au millième de seconde près, c'est qu'on pourra gérer ce genre de choses. On pourra sortir
de l'enfer
qu'est l'euro. Et comment
on gère une crypto-monnaie, justement ? C'est censé être le principe de ne pas pouvoir être géré par un État central. Votre crypto nationale, quel nom elle porte, d'ailleurs ?
Alors, ça s'appellera le BitQ.
Le BitQ.
Voilà, c'est un mélange du Bitcoin et de l'écu.
Un BitQ égale un euro ?
Alors, il sera indexé sur le franc.
Voilà. Sur le franc, d'accord. L'ancien ou le nouveau ?
Alors, il sera
pour les plus âgés qui nous écoutent.
Il sera indexé sur le franc CFA, qui est un franc pour lequel j'ai beaucoup d'amour. Donc, le BitQ sera indexé sur le franc CFA. Et ensuite, évidemment, ce sera une monnaie qui pourra venir s'échanger contre d'autres monnaies stables. On parle de l'euro, on parle de l'USDT, de l'USDC, etc., du yuan électronique, et elle pourrait être là-dessus. Ce sera juste une monnaie souveraine sur laquelle nous avons un contrôle et ne sommes pas en train de la subir comme nous le faisons actuellement.
On pourra payer ses infos avec cette monnaie numérique que
bien
vous proposez.
Sûr, bien sûr, tout sera indexé sur cette monnaie. Donc,
comment on fait pour les personnes qui souffrent de la fracture numérique, qui n'ont pas accès à Twitch, par exemple?
Alors, ces personnes-là, déjà, nous allons évidemment, c'est un de mes plans, nous allons recâbler ces personnes-là.
Recâbler. Personnes âgées auront des tablettes, des smartphones que vous allez leur proposer ?
Exactement. C'est déjà le cas dans des pays un peu exotiques, j'ai envie de dire, qui s'adonnent en fait aux crypto-monnaies et qui en fait bypassent, qui sautent par-dessus le système bancaire, le système financier, qui est, je vous rappelle, une dictature financière que beaucoup de pays subissent et qui aujourd'hui n'ont pas de système bancaire, sont débancarisés et pourtant ont des smartphones et utilisent des crypto-monnaies pour en fait créer leur propre échange à eux et ça marche très bien.
Et quel coût pour le climat ?
Pourquoi on ne peut pas le faire en France ?
Quel coût pour le climat et pour la nature ? L'un de vos concurrents, Paul-Jacques Charenton, vous a accusé de vouloir détruire le climat le plus vite possible.
Oui, mais Paul-Jacques Charenton pense encore une fois qu'on va passer par le Bitcoin, qui effectivement, le Bitcoin, c'est un joli brouillon qui s'est un peu barré en vrille. Nous aurons une monnaie extrêmement performante, extrêmement économe. Et je vous rappelle encore une fois que le coût financier du fiat, de la monnaie fiduciaire, est catastrophique. Combien faut-il de tonnes de métaux et d'eau pour forger des pièces de cents? Combien faut-il de papier pour imprimer des billets? Combien faut-il de camions à essence pour transporter ces billets de banque en banque? Combien faut-il créer de banques, littéralement, et d'agences et de distributeurs? C'est d'une débilité aussi totale. Évidemment, avec un système crypto, on va dématérialiser tout ça et ce sera beaucoup plus écologique.
Faut-il interdire la chasse, Charles de Spie?
Je ne pense pas. La chasse, c'est un loisir qui fait partie de l'histoire de France. Voilà. Il y a peut-être eu des débordements. Après,
des enfants abattus, quand même.
Est-ce que ces gens qui aiment aller se balader en forêt ou faire du VTT devraient pas aller certains jours en forêt? J'essaierai de réglementer un petit peu la chasse, mais j'ai discuté avec mon ami Stanislas, qui est un franc défenseur de la chasse et des balles à ailettes notamment. Nous ferons en sorte que la chasse reste une tradition française. Encore une fois, je suis là pour soutenir les premiers écologistes de France. Mais qu'on utilise des balles qui pourraient peut-être moins tuer en cas d'accident.
Votre programme en matière scolaire, vous voulez mettre un clavier sous les doigts de tous les enfants ou on continuera à utiliser un stylo et à apprendre à écrire?
Je mettrai des stylets sous les doigts de tous les enfants. Voilà. Je mettrai des stylets, puisque comme je l'avais dit au premier tour, c'est une réforme qui a eu beaucoup de popularité, beaucoup de très bons retours. Il faut encore une fois révolutionner la scolarité. Et aujourd'hui, envoyer des gamins avec des livres qui ont 50 ans, qui appartiennent à des lobbies d'éditeurs qui ne veulent rien changer, casser le dos de nos enfants, bon, à un moment, ça suffit. Aujourd'hui, une tablette, ça vaut 49 €. Ça permet d'avoir un enseignement qui est adapté à chaque enfant, qui permet d'avoir un lien entre l'enseignant et l'enfant. Donc évidemment, je mettrai des stylets et des tablettes entre les mains de chaque enfant. Et ça coûtera moins cher que des livres.
Avez-vous le nom de votre Premier ministre si vous remportez l'élection présidentielle? Est-ce que vous savez avec qui vous allez gouverner? Quelles alliances?
J'ai eu des discussions avec monsieur Zitouni. Qui, effectivement, nous avons eu des points de divergence. Mais nous avons aussi...
Possible entre les deux tours?
Un rassemblement national, je dirais même. Ce serait possible. Monsieur Zitouni est extrêmement ambitieux et il a dans son électorat des personnes qui, je pense, sont pleines d'avenir et de propositions.
Encore deux minutes.
Une dernière question. Vous portez un t-shirt, je crois, qui reprend les couleurs de la République.
La République,
le bleu, le blanc et le rouge.
Voilà, la République qui glitch un petit peu, oui, tout à fait.
La République qui glitch. Vous voulez sortir de la République? Il n'y aura plus le bleu, le blanc, le rouge comme couleur nationale française?
On pourra garder les couleurs, mais évidemment, on ne sera plus sur un drapeau national. On sera peut-être sur un écusson un peu plus royal, effectivement.
Merci beaucoup, Charles de Spie, d'avoir accepté notre interview.
J'attends votre invitation dans vos émissions de gaucho wokiste.
Nous invitons la régie à faire entrer nos deux prochains interviewés, que sont Eglantine Arnoux, qui dispose d'un fan club, les jeunes avec Arnoux, très conséquent, qui a déjà publié quatre tracts bien complets sur son programme, et également un nouveau venu, Nicolas Ferrial du MVP, le mouvement, j'imagine, vous le peuple, qu'est-ce que c'est ça?
Bon, pour la volonté du peuple.
Pour la volonté du peuple.
Voilà, avec le slogan « Balayons-les ». Peuvent-ils venir?
Ils ont été invités, en tout cas.
Non, mais ils sont à côté, en train de manger une pizza, j'imagine.
Mais je dis face à la pizza.
Non, voilà. je ne savais pas que Léo Salamy rentrait dedans comme ça, ayant été moi-même interviewé à Backseat.
C'est pas quand il s'y met. Hein.
Parce que là, j'étais mal pour. J'étais mal. J'ai
l'impression qu'il y a un peu plus de droite. En tout cas.
C'est un métier, monsieur. C'est un métier.
Et moi, je me dis, oulala, l'âme, il attend le prochain, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe à la régie? On peut les avoir ou pas? Ils peuvent venir?
Ah, il y a une porte qui s'ouvre.
Il y a une porte qui s'ouvre.
Ah, très bien.
Très
venez,
bien. Eglantine Arnoux va prendre place.
Eglantine, mettez-vous là. Et celui qui va être interviewé tout de suite, Nicolas Ferrial, c'est ça?
Absolument.
Alors, Nicolas Ferrial, c'est un nouveau venu dont on tirera un petit peu le background tout à l'heure. Et alors, contrairement aux autres, on ne connaît pas. Alors, avant que l'interview reprenne, Nicolas, je vais vous demander, si ça ne vous dérange pas, de présenter en 3 minutes qui vous êtes, enfin, plutôt quel est votre parti et quel est votre programme.
Qui je suis, c'est simple. Nicolas Ferrial dit la triboule. Évidemment, chansonnier, humoriste et désormais homme politique pour représenter le peuple dans cette élection dont il est cruellement absent.
Voilà, vous représentez le peuple et vous avez une ligne directrice?
Ma ligne directrice est simple. Dégageons-les tous ceux-là, vous êtes déjà là, je vous vois tous. Dégageons-les, déblayons ces amateurs qui ont confisqué le pouvoir au peuple pour leur donner à ceux qui le méritent réellement, c'est-à-dire vous, moi, les gens, tout simplement.
Très bien. Bonsoir. Et je vous laisse faire votre métier. Léo Salamy qui va vous interviewer ce
Bonsoir,
soir.
Bonsoir Salamy.
Bonsoir Nicolas Ferrial, merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est une rare invitation que vous avez acceptée. Vous avez essentiellement fait votre campagne sur les réseaux sociaux, c'est ça?
Absolument, j'ai parlé seul, les yeux dans les yeux avec le peuple.
Et bien là, c'est moi qui vais vous poser des questions. Vous êtes donc le candidat du mouvement pour la volonté du peuple. Pourquoi
ça fait le MVP.
Pourquoi ce serait vous qui incarnerait le mieux la volonté du peuple et pourquoi pas d'autres candidats?
Mais parce qu'ils l'ont confisqué, enfin Salamy. Mais vous ne pouvez pas tout de suite faire comme si vous ne le voyez pas. Enfin, regardez encore des ministres, premiers parmi eux, qui prennent le Falcon. 10 000 euros pour aller se faire photographier à Prades dans le sud de la France. Une émission carbone scandaleuse. Et vous me demandez pourquoi ce serait moi? Mais parce que moi, je ne fais pas ça, monsieur Salamy. Moi, je ne fais pas ça, Salamy. J'entends...
C'est une histoire d'avion.
J'entends respecter la volonté des électeurs. Et surtout, gouverner par le peuple et pour le peuple. Ouais. Alors, c'est très simple. Plus TVA à 0% sur les produits de première nécessité, ça me semble être un bon début. Référendum d'initiative populaire pour laisser aux citoyennes et aux citoyens le soin de décider leur propre avenir. Ça n'est pas rien quand même, Salamy, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et on pourrait continuer comme ça, la fin de la dictature sanitaire. On en a fini avec cette muselière qu'on impose à toutes les citoyennes et tous les citoyens.
Mais Nicolas Ferrial, votre projet, c'est de gouverner ou c'est de contester?
Mais enfin, Salamy, mais vous êtes dur de la feuille. Je viens
Absolument
de vous le dire.
Pas. Je vous pose une question. Je vous pose une question.
Alors, je suis venu chez vous parce que j'avais un tantinet, un brin, un atome de respect, non pas pour votre profession, mais pour vous qui l'exercez le moins mal possible. Je constate que je me suis trompé. Je
vous en remercie, mais vous ne répondez pas à ma question.
Je viens de vous donner mon programme. Vous voulez que je continue? Alors, je continue.
S'il vous plaît, dites-nous ce que vous ferez si vous devenez président de la République. C'est ça qu'attendent les auditeurs.
Mais ce que je ferai, c'est mettre en œuvre des réformes simples que les citoyennes et les citoyens attendent. Je vous ai parlé du référendum d'initiative citoyenne, c'est pas rien quand même, je pourrais vous parler du Sénat tiré au sort, mais ça vous ennuierait, je sens que ça, c'est pas des choses qui vous intéressent. On pourrait parler d'Europe, Salamy. Alors, la contribution nette de la France qui est supérieure à ce que la France reçoit de l'Union Européenne, et on trouve ça normal?
Vous savez bien que c'est pas un marché qui fonctionne de cette manière.
Ah bon?
Toutes nos entreprises bénéficient du marché commun.
Comment ça? La France contribue à l'Union Européenne pour des milliards et des milliards d'euros qui s'échappent de notre territoire, et on voit rien venir ou si peu.
La France est le premier bénéficiaire de la politique agricole commune.
J'engagerai
nos agriculteurs, il n'y aura plus d'aide européenne. Vous voulez sortir la France de l'Union Européenne,
Monsieur Ferrial? J'engagerai un bras de fer avec l'Union Européenne, de manière à ce qu'enfin la France reçoive ce qu'elle doit. C'est la première chose. La deuxième chose, nous pourrions parler, pourquoi pas, de la fiscalité. Alors ça, c'est sûr qu'en France, pour taxer les pauvres gens. Alors ça, on est là. Mais pour aller chercher l'argent là où il est.
Fiscal, alors c'est quoi?
Pour aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche de ceux qui en ont. Vous, par exemple, Salamy, qui êtes salarié d'une grande chaîne. J'imagine que vous avez un salaire à 5 chiffres. Paf!
Ça ne vous regarde pas.
Avec moi, ce sera terminé, ça! On prendra tout ce que vous avez perçu en trop. Enfin, est-ce qu'on peut tolérer ça en France, Salamy? Vous voulez que je continue? Alors, j'en ai un.
Non.
Un programme. La seule différence entre moi et les autres, là, c'est que moi, j'ai la volonté de l'appliquer.
Votre programme, ce ne sont que des punchlines.
Non, mais là! Là, Salamy!
Les effets de manche, ça marche toujours, je vous l'accorde, mais là...
Je me demandais si vous étiez dur de la feuille. Je constate que je vous ai encore surestimé. Mais vous avez le cerveau complètement confit, mon pauvre. Je viens de vous en aligner 5, 6, 7 des propositions. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tous les autres sont là avec des slogans, des mots creux.
Ce ne sont que des paroles pour l'essentiel.
Arnoux, là, je la connais. Elle va encore vous parler d'union. Elle va vous parler de bienveillance.
Laissez-lui expliquer son propre programme tout à l'heure.
Salamy.
Laissez-la expliquer son propre programme tout à l'heure. N'empêche que je constate que parfois, le verbe peut être le paravent du vide. Et...
Et qui c'est qui fait des punchlines maintenant? C'est une belle assonance. Mais vous savez, je suis la triboule chansonnier. J'apprécie ce genre de friduterie. J'apprécie.
Avec qui gouvernerez-vous, monsieur Ferrial? Avec qui gouvernerez-vous? Quels sont vos relais dans l'appareil d'État, par exemple?
Mais
institutions, vous voulez elles aussi les dégager? Ça aussi, c'est du dégagisme pour vous? Vous voulez construire sur des cendres?
Je pensais que vous étiez journaliste politique. Alors, on va reprendre avec un cours de sciences politiques de premières années. J'en suis quand même terrifié. Mais enfin, à la fin, Salamy, c'est quand même le président qui nomme son premier ministre, qui lui-même propose un gouvernement. On est d'accord jusque-là?
Mais oui, mais quand vous dites déblayons...
Alors, qu'à avoir
déblayons
les
tous.
Relais au sein de l'État, non? Pas du tout. Savez-vous qu'il y a des talents en France, Salamy? Alors, peut-être pas chez vous, dans les médias, dans le système, à la
Il y en a, il y en a, il y en a.
Là,
dans le service public, il y en a.
Avec le dos courbé, à force de faire des courbettes, forcément que le talent s'oublie, à force d'avoir les genoux usés, de ramper devant les puissants, là c'est sûr. Mais dans le bon peuple, vous voulez un ministère de l'agriculture ? Je vous trouve 50 agriculteurs talentueux qui sauront faire le job.
Quand vous
voulez un ministre de l'éducation nationale ? Nous avons des milliers et des milliers de bons professeurs qui savent faire le job. Nous avons
l'expérience,
une recherche...
L'expérience tient lieu de compétence pour vous, pour exercer ces responsabilités-là.
Mais enfin, quoi d'autre ? Mais vous êtes... Mais c'est vous qui devriez...
L'expertise,
on devrait changer de rôle, c'est vous qui devriez faire humoriste. Quoi d'autre ? L'expérience tient lieu de compétence. Mais alors, quoi d'autre ?
Votre programme Déblayons-les, une fois que vous avez déblayé, vous les mettez où les déchets ? Dans votre esprit, dans votre idée ? Qu'est-ce qu'on en fait ?
Je vois, Salami, que vous commencez à comprendre l'état d'esprit qui m'anime pour en effet...
Je commence à le comprendre, oui, j'en ai quelques indices.
Redresser la France. Alors non, j'entends vos insinuations, je ne suis pas né de la dernière pluie. Non, mon programme évidemment est un programme de paix, nous ne souhaitons que le meilleur pour tous les Français et toutes les Françaises, même ceux qui ont tondu la laine sur le dos de mes compatriotes. Mais ceux-là, nous les renverrons hors de la sphère de l'État, là où ils n'auraient jamais dû pénétrer, tout simplement.
Vous faites le porte-parole de colère populaire. Est-ce que pour vous, M. Ferial, toutes les colères sont justes ? Ou y a-t-il des colères que vous ne reprenez pas à votre compte ?
Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette question ? Mais alors, mais là, je ne comprends plus.
C'est une question qui se pose.
Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Mais on ne gouverne pas avec des émotions, enfin, Salami. Mais il n'y a vraiment que des journalistes pour poser des questions aussi idiotes que ça. Non ! On gouverne avec des propositions ! Mais est-ce que toutes les colères se valent, mais les colères sont
des
légitimes.
Manifestations anti-immigrés, comme on a pu en voir parfois.
Les colères, Salami, les colères sont légitimes,
colères.
Mais on gouverne
toutes
pas.
Toutes les colères,
on,
ou pas
on gouverne. Il faut entendre les citoyens.
Lesquelles ?
Les émotions, tous. Alors c'est
colères.
Sûr qu'en évoluant dans une sphère où les hommes et les responsables et les femmes politiques ont peur du peuple, parce que c'est de ça qu'il faut parler. Vous avez peur vous-même du peuple, Salami, bien abrité dans votre 7e arrondissement parisien, dans votre berline dont vous ne sortez jamais. C'est quand la dernière fois que vous avez pris le métro ? Je suis sûr que vous ne vous en souvenez même pas. Moi, je n'ai pas peur du peuple. Moi, je les connais, mes concitoyens. Mmh. Alors, il faut entendre. Les colères sont légitimes parce qu'elles disent quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut répondre à toutes les colères de la même manière. C'est la responsabilité du responsable politique que je serai de savoir, oui, débattre avec mes conseillers citoyens et mes
Si vous devenez président de la République, est-ce que vous rendrez des comptes au Parlement ? Est-ce que vous répondrez à des interviews de journalistes indépendants ?
Salami ! On en était rendu à la première année de sciences politiques. Nous voici maintenant arrivés niveau lycée. Mais c'est bien, vous rajeunissez ! Ça vous fait pas de mal ? Depuis vu les années que vous avez occupé ce siège. Alors, le président de la République, que je sache, Salami, n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale, oui ou non ?
D'où ma question, est-ce que vous incarnerez le peuple seul ?
Mais j'incarnerai les institutions de la République française. Le président de la République ne rend pas de responsabilité devant l'Assemblée nationale. Donc
c'est
la réponse,
un système qui vous convient.
La réponse à votre question est non, parce que c'est ce que dit notre Constitution. Mais enfin, mais est-ce que vous n'avez pas une autre question un peu plus intéressante ?
Et justement, le mot de la fin, dernière
ce
question.
Ce sera... Non, je n'ai pas d'autres questions. On va s'arrêter là pour cette interview. Merci,
peut-être
Nicolas Ferial.
Un petit mot de la fin, juste avant de passer au prochain interview, non ?
Absolument, Tigre. Un mot de la fin simple pour dire que cette élection... sera l'élection où, enfin, nous allons les déblayer, tous autant qu'ils sont.
Merci, Nicolas Ferial, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le candidat du mouvement pour la volonté du peuple et votre slogan, déblayons-les.
Absolument.
Nous allons accueillir notre quatrième et dernière invité de cette interview spéciale pour cette soirée exceptionnelle. Nous accueillons sur ce plateau Églantine Arnoux. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidate du parti En Avant. Votre slogan, l'avenir nous tend les bras. Pourquoi l'avenir vous tendrait-il les bras à vous ? Églantine Arnoux.
Eh bien parce que je pense que nous avons l'expérience pour savoir où nous allons, avec qui nous allons le faire et surtout nous avons mené des consultations de grande envergure pour voir effectivement que l'avenir nous tend les bras.
Pourquoi avoir choisi une carrière politique alors que le privé vous tendait les bras, Églantine Arnoux ? Pourquoi ce choix ?
Parce que je me suis mis au service de la chose commune, de l'avenir en fait, tout simplement, des Français. J'aurais pu poursuivre une carrière dans le privé, effectivement ça aurait été quelque chose de très intéressant, ça a été très formateur pour ce que j'en ai fait. Mais du coup ce qui m'intéresse c'est les Français et l'avenir des Français.
Vous vous sentez à votre place dans le monde politique ? Vous pensez qu'on peut diriger la France comme une entreprise ?
C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut retirer de l'entreprise, effectivement, pour le calquer sur le fonctionnement de l'État. Ça, c'est quelque chose que je pense. Mais il y a aussi des institutions à prendre en compte qui n'existent pas forcément dans les entreprises. Et pour ça, il faut s'adapter aussi au système de la Ve République.
Vous avez parlé de vos propositions de consultation que vous avez faites pour aller chercher des propositions auprès des Français directement. Quelle en est la sève finalement? Comment se résume votre programme, vos propositions? Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu présidente de la République?
Alors, si j'étais élue présidente de la République, déjà, je veux remettre les Français au cœur du débat, bien évidemment, en mettant en œuvre un programme social et économique très fort.
Qui comprendrait quoi? Parce que pour l'instant, c'est très vague. Beaucoup d'autres pourraient le dire.
Alors, nous voulons des mesures pour le service public, nous voulons des mesures pour le pouvoir d'achat, nous voulons des mesures pour l'hôpital, pour l'école, pour tous ces sujets qui intéressent les Français, bien évidemment, puisqu'ils ont beaucoup de revendications. Il y a beaucoup à faire pour qu'on soit plus performant.
Vous semblez essayer de mettre tout le monde d'accord. Pour vous, la politique, c'est le consensus absolu ou parfois ça peut être le clivage?
Ça peut être le clivage, mais toujours dans le respect, bien évidemment, puisqu'on va tendre vers un avenir commun et faire en sorte que tout le monde s'entende.
C'est un peu le monde des bisounours, quand même. Eglantine Arnaud, soyons sérieux,
c'est un peu le monde des bisounours. Je pense que vous essayez de dénigrer mes idées en me disant quelque chose comme ça.
Non, ce n'est pas du dénigrement, ce sont des questions.
Non, je trouve ça un petit peu dénigrant de qualifier ça de bisounours, alors que je pense qu'on peut avoir un climat social apaisé, et Dieu sait combien on a besoin d'apaisement.
Est-ce que vous ferez appel à des cabinets de conseil pour accompagner votre gouvernement?
Les cabinets de conseil peuvent être un support intéressant, effectivement, dans ce cadre-là, mais je pense aussi que nous pouvons nous inspirer des travaux qui ont déjà été faits par le passé, par les parlementaires, par exemple.
Les fonctionnaires également pourront être mobilisés, les chercheurs.
Également. Mais après, les cabinets de conseil peuvent être de précieux conseils et de précieux supports pour la suite de nos activités, effectivement.
Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas qu'en ce moment. L'économie française est boostée, comme les autres économies européennes, mais est-ce que ce sera éternel? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir continuer à dépenser de l'argent autant qu'on le fait aujourd'hui?
C'est sûr que la dette, effectivement, est là. C'est un risque que nous avons, qui nous rattrape. Nous avons vu ce qui s'est passé dans certains pays. Ça a été catastrophique. Donc, effectivement, il faut faire attention à nos dépenses. Nous devons montrer l'exemple.
Et dans quelle mesure? Est-ce que vous ferez des économies sur les dépenses de l'État?
Je pense qu'il y a des économies à faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent que l'on perd.
L'école, l'hôpital, la police?
Non, mais par exemple, tous ces services spéciaux de retraite, etc., par exemple, où on crée une rupture d'égalité complète entre les travailleurs.
Les régimes spéciaux de retraite.
Oui, par exemple. Ça, c'est un combat qu'on doit mener.
Vous souhaitez faire travailler plus longtemps les Français?
Je pense que c'est quelque chose, on vit plus longtemps, ça me semble logique qu'on travaille plus longtemps, à condition évidemment qu'on s'adapte un petit peu à quel âge on a commencé, ce genre de choses. Mais je pense que les Français vivent de plus en plus longtemps en meilleure santé, ça me semble logique que du coup on travaille plus longtemps, notamment dans cet aspect de réduire la dette.
Et à partir de quel âge on peut commencer à travailler? Dès 12 ans dans un restaurant?
À 12 ans, non, quand même. L'école est importante, mais l'apprentissage dès 15-16 ans me semble être quelque chose d'intéressant. Il faut redorer le blason de ces filières qui ont été trop longtemps dénigrées, remettre au cœur l'apprentissage, l'alternance, etc.
Avez-vous des relais d'opinion politique? Avec qui gouvernerez-vous? Ferez-vous des alliances?
Des alliances? Alors nous, on mène un combat pour les Français, donc effectivement, il va falloir faire des concessions, il va falloir être dans le débat. Nous allons tout faire pour essayer de nous mettre d'accord. Nous allons voir avec qui nous voulons travailler et qui veut travailler avec nous, main dans la main, je pense.
Mais les compromis sont-ils toujours possibles? On a vu certains autres candidats à ce micro se succéder qui faisaient preuve de plus de radicalité. Le temps n'est-il pas à la révolution, finalement?
Non, je pense qu'il y a des concessions que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire de concessions avec l'extrême droite, effectivement, avec le populisme, par exemple. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire, puisque ce sont des gens qui ne sont pas dans la réalité et qui appellent à la haine des autres.
Quel est votre programme en matière de sécurité? L'insécurité est un sujet majeur pour beaucoup de personnes âgées, notamment.
Effectivement.
Tandis que certains jeunes peuvent se plaindre des violences policières, par exemple. Là aussi, vous pensez qu'un compromis est trouvable?
Je pense qu'on peut, effectivement. Je pense qu'il y a une mécompréhension de ce que doit faire la police, effectivement, auprès des jeunes. Mais je pense aussi qu'il faut écouter ces personnes âgées qui se plaignent de l'insécurité. Effectivement, en France, il y a des endroits où on ne se sent pas en sécurité comme dans d'autres quartiers. Et je pense qu'il faut se saisir de la question, effectivement.
Souhaitez-vous alourdir les peines pour les délinquants?
Je pense que c'est quelque chose de nécessaire, effectivement. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire, puisque ce n'est pas assez dissuasif à l'heure actuelle. La justice est trop lente. La justice n'est pas assez ferme.
Vous pensez qu'elle est laxiste, la justice ?
Laxiste, je ne voudrais pas insulter les magistrats, mais je pense qu'effectivement, il faudrait faire preuve plus de fermeté pour en fait être dissuasif, tout simplement, envers les délinquants et les criminels.
Plusieurs candidats proposent la sortie de la France de l'Union européenne. Quelle sera votre politique internationale ? Souhaitez-vous continuer à travailler avec nos alliés dans un contexte de guerre ?
Alors absolument, moi je suis très attachée à l'Europe, je suis très attachée à la France, et pour moi la France n'existe pas sans l'Europe, et vice-versa. La guerre en Ukraine nous prouve que, plus que jamais, nous avons besoin de l'Europe.
Et donc, que répondez-vous à ceux qui vous disent que la France est perdante en Europe, que sa voix se dilue dans le monde ?
Je pense qu'ils ont une mauvaise compréhension des institutions européennes. Je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer, voilà, de pédagogie, pour que les gens comprennent le rôle de l'Europe, qui est trop souvent laissé au micro de personnes qui n'y connaissent pas forcément grand-chose et qui veulent dénigrer l'Europe pour servir leurs intérêts personnels.
Savez-vous d'ores et déjà pour qui vous appellerez à voter si jamais vous n'êtes pas qualifié au second tour de l'élection présidentielle ?
Alors, il faudra voir en fonction des alliances qui pourront être faites, évidemment. Comme je vous disais, je refuserai tout rapprochement avec l'extrême droite, bien évidemment. Après, nous cherchons un programme économique fort et durable.
Vous pourriez devenir première ministre d'un autre candidat ?
Ça dépend de son bord politique et de ses idées, bien évidemment.
Si un compromis est trouvable, vous semblez défendre la culture du compromis, la culture, que l'on pourrait dire, de centre-droit ou de social-démocratie, on dira ça comme
oui,
on veut, mais
oui, oui.
C'est quelque chose que vous êtes prête à faire, à travailler main dans la main avec des coalitions gouvernementales
oui, exactement, oui.
Est-ce que vous aurez recours au référendum si vous êtes présidente de la République ?
Ça dépendra des sujets, effectivement. Si les Français le demandent, nous les consulterons, effectivement. Mais il y a des questions qui ne doivent pas forcément être laissées à la majorité. Par exemple, la place de la France dans l'Union européenne. Je ne suis pas sûre que c'est des questions. Ce sont des questions auxquelles les Français peuvent répondre en l'état actuel des choses, parce que là, c'est quelque chose de très compliqué et qu'on n'explique pas suffisamment.
Êtes-vous favorable à ce que les Français eux-mêmes décident de l'organisation de référendums ? On a entendu des candidats proposer des référendums d'initiative populaire, par exemple.
Vous pensez à quel sujet, par exemple ?
Je ne sais pas, ce sont les citoyens qui décident. Est-ce que les citoyens pourraient être, selon vous, à même de décider d'eux-mêmes des sujets sur lesquels ils souhaitent se prononcer ?
Ça peut être une idée envisageable, effectivement, c'est un sujet sociétal, oui.
Est-ce que vous souhaitez réformer nos institutions et le fonctionnement démocratique ?
Oui, je pense qu'il faut moderniser notre administration qui est vieillotte, qui est trop lente, qui est complètement en décalage et qui manque de productivité. Je pense effectivement qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, oui.
Mais politiquement, vous voulez réduire le nombre de parlementaires ? Vous voulez faire gouverner davantage par ordonnance, par exemple ? Ce sont des méthodes de gouvernement inspirées du privé qui vous intéressent ?
Non, je dirais plus que je pense qu'il y a beaucoup d'intermédiaires que l'on pourrait se dispenser. Je ne pense pas forcément aux parlementaires quand je parle d'intermédiaires. Je pense que l'on pourrait aller plus vite s'il y avait des leviers qui étaient levés.
Qu'est-ce que vous pensez de votre propre campagne ? Quel regard portez-vous sur votre propre campagne ? Avez-vous des regrets ?
Je suis très fière de la campagne que nous avons menée, moi et mon équipe. Nous avons une stratégie sur les réseaux sociaux qui était, je pense, très en avance sur son temps. Je suis très fière de ce que nous avons parcouru et ça a été un plaisir de chaque instant. Et je sais qu'il y en aura d'autres à l'avenir puisque nous avons beaucoup de projets encore à porter.
Merci Eglantine Arnoux d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la candidate d'En Avant et votre slogan c'est « L'avenir nous tend les bras ».
Merci Léo Salamy, nous vous retrouvons vers 22h parce que vous avez l'honneur d'interviewer, plutôt d'arbitrer, l'ultime débat entre les deux gagnants et, je rappelle, qui seront élus uniquement avec les sondages du chat. Donc ce sera vraiment un exercice démocratique. Nous allons changer de place, je vais demander à Jules également de venir. J'aimerais demander à la régie d'envoyer un petit sondage avec la simple question. Quelle interview vous a le plus convaincu et gagnera tout de suite deux voix ? Voilà, merci,
merci
Jean,
à tout à l'heure.
Encore un peu de voix, Clément ?
Ça va, je garantis pas de la chronique de demain.
Comme ça.
Voilà, on fait une petite pause, enfin de 30 secondes parce que on est allé chercher quelques petites choses. On attend l'arrivée de Jules. On va commencer. Alors, on va pas reparler de votre background. Le tien, il est un petit peu transparent également. Par contre, on va tirer. Excusez-moi, une petite casserole pour. Je vais vous dire qui.
Ah.
Alors qui ça ?
Monsieur Charenton.
Est-ce qu'on peut rappeler le background justement des différents candidats pendant que...
Est-ce que tu t'en souviens de ton background ?
Bah justement, je me demandais si j'avais pas été chroniqueur.
Milliardaire.
Je crois que j'étais chroniqueur, mais j'ai un doute.
Chroniqueur et Eglantine, elle était politicienne de formation.
Le chat est au courant.
Voilà. Est-ce que je me tourne un peu vers Nicolas Ferrial, qui est le petit nouveau. Est-ce qu'il y a un véritable programme Monsieur Tigre.
Non, mais Tigre, vous êtes atteint de la même maladie que votre collègue Salami. Vous oubliez tout. Je viens de vous en donner au moins 6 ou 7 des propositions. Il y a des propositions, Tigre. Elles sont importantes. Elles visent à redonner le pouvoir au peuple.
Bon, écoutez, nous allons, en attendant Florence et Jules, nous allons avancer sur le... Bah, on va commencer un début d'émission classique puisqu'il est 20h. Merci d'être présent devant votre écran après cette interview absolument incroyable. Je remercie Jean d'avoir fait le déplacement.
Il était dur, hein ?
Ouais, je pensais pas qu'il serait comme ça.
Il avertit qu'il serait bien serbe. Ouais,
j'essaie d'envoyer des ondes relaxantes à MV parce que vraiment, il est rentré dedans.
Je trouve que MV, c'était la plus hardcore.
Ouais. Et toi aussi, je me suis dit, bon, après, au moins, toi, t'es prévenu que ça va bien se passer. Bonjour Jules. Alors,
Bonsoir,
je rappelle que Game of Thrones, c'est 4 candidats fictifs issus de partis fictifs, avec cette idée de simuler, mais on va dire dans la bonne humeur. Mais on s'est lancé des petits scuds tout à l'heure, Thinkerview, tout ça, donc avec quand même des faits réels, partis fictifs, candidats fictifs, mais dans un contexte réaliste. C'est en partenariat avec France Info. Nous sommes au studio 421 de France Info. À la réal, il y a Célia, Colline, Alix, Thomas, Victor, Adrien et Fredo, les bonnes affaires, qui nous a dit « Buvez pas trop, comme ça je revends les bouteilles ». Et également, on a, alors vous connaissez nos quatre intervenants qui sont doués, ils ont longuement parlé. Je présente un petit peu Jules.
Pas doué.
Voilà, Jules, le talentueux Jules. Dis-moi Jules.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce qu'est la réalité, quand est-ce qu'est pas la réalité ? Parce qu'il faut encore expliquer, il y a des gens qui découvrent, à ce moment-là. Voilà.
Exactement. Oui, en effet, donc moi je vais t'aider à faire avancer un peu l'intrigue, comment se déroule cette campagne pour nos chers candidats, quand ils se ratent ou en contraire quand ils font des coups d'éclat. Là, il y aura un petit tapis sonore, c'est après les lancers de dés en fait à chaque fois. Voilà, on l'entend. On est calé. Et donc là, je dirais, si ça se passe bien pour nos amis et les candidats. Et puis ensuite, il y a d'autres moments où on va plus ancrer tout ça dans la réalité. Ça sera l'occasion pour un peu nous tous de s'informer avec des éléments qui sont passés sur France Info il n'y a pas longtemps, qui vont dicter un peu le thème des débats. Donc il y aura 2 sujets aujourd'hui, 2 éléments par sujet. Là, on sera dans la réalité. Il y aura ce petit jingle, voilà, le push de France Info, si vous avez l'appli sur vos téléphones, et qui dira qu'on est dans la réalité. Donc là, ce sera du sérieux, des infos sourcées, vérifiées par les services de la rédaction.
Merci beaucoup. Les voix des Français sont représentées par des petites billes que vous pouvez voir sur le plateau, mais également, il y a un super overlay qui est géré le mieux possible par Victor, mais c'est compliqué parfois de tracer la provenance. Et pourquoi elles sont de couleur ? Parce qu'elles représentent chacune une sectorisation très arbitraire des Français. En bleu, c'est les super riches. Les super riches, ils veulent moins d'impôts. Pourtant, voilà. Les précaires, ils sont en marron. Les précaires, ils veulent un peu plus d'oxygène financier pour vivre un peu mieux. Ça, c'est la classe moyenne. Il y a un peu de tout. Voilà, c'est des gens qui sont tirés de n'importe quel... Mais ils sont en classe moyenne. Ils sont ni riches ni pauvres. Ah, je viens d'avoir un étudiant qui est de couleur rouge. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent ? Eh ben, ils ont des valeurs, les étudiants. Ils veulent un avenir, surtout. En rouge, c'est les entrepreneurs. Ils aiment bien... je me tourne vers vous, le libre-échange par exemple, mais aussi moins de charges sociales, ça fait très peur aux entrepreneurs. En vert, ce sont les retraités. Pour eux, ce qui est important, c'est la sécurité. Et enfin, en rose pâle, les bobos, qui pour eux, l'important, comme on dit chez Kaamelott, c'est les valeurs. C'est-à-dire que, évidemment, les éoliennes, des bonnes valeurs. Voilà, vous pouvez perdre des bobos. Et donc, vous partez avec une voix de chaque. Et je vous invite à en choisir 2 parmi ces voix qui deviendront des militants. C'est-à-dire, ce sont des personnes que vous ne pourrez jamais perdre. Sauf si un jour, vous perdez des militants. Donc, je vous laisse choisir. Qui a choisi ? Ben voilà, Églantine, vous décidez qui sont vos militants ?
Précariat et étudiants.
Très bien. Vous avez choisi vos militants ?
Oui. Moi, c'est un bobo et un riche.
Voilà. Et oui, parce qu'il ne veut pas les perdre. C'est une bonne stratégie.
Ah oui, c'est vrai. Il faut protéger les Antilles. Oui,
de la même manière, je ne sécurise pas. J'enferme des bobos avec moi. Je prends un bobo et un étudiant. Voilà.
Et enfin, la France en fête. Qui est militant ? Qui milite pour la France en fête ?
Du coup, je vois le jeu est en place. Je vais mettre des retraités.
Des retraités. Voilà,
des retraités qui résistent. Et des riches, ça serait quand même incroyable.
Églantine.
Allez, des riches.
Vous venez du parti dominant, donc vous avez un voix de la classe moyenne en plus parce qu'ils vous aiment. De la même façon.
Le favoritisme commence.
Mais ça commence.
Eh bien, c'est pas moi qui ai voté pour. Enfin, pour Macron, peut-être, j'ai voté, mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup de gens. Il a eu un certain nombre de voix. Il est installé. Ensuite, Charles de Spie.
Oui, tout à fait.
Étant quelqu'un de radical et d'extrême droite, vous avez droit à un militant supplémentaire.
Ah, j'ai un militant supplémentaire. Je vais prendre quelqu'un. Qui je vais prendre? Du précariat.
Très bien. Vous également, gauche écolo, vous avez droit à une voix supplémentaire. Ah, un militant supplémentaire, excusez-moi.
Militant supplémentaire. Eh bien, ça sera les entrepreneurs commerçants.
Et vous, cher Trublion, malheureusement, ouais. Vous avez une voix en moins.
Évidemment, évidemment.
Et oui, y a moins de gens
le système, tigre. Le système qui parle par votre voix.
Mais c'était une voix en plus ou un militant en plus?
Militant.
Un militant en plus.
Non, toi, t'avais une voix en plus.
Toi, t'as une voix en plus.
Vous avez filé un étudiant.
Ah, il bat.
Merci beaucoup. Alors, également, vous êtes politicienne de formation.
Tout à fait.
Vous avez une casserole qui vous attend. Oui, donc, les casseroles, je les ai quelque part. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre entre 1 et 7, c'est ça?
1 et 9.
1 et 9. Donnez-nous un chiffre entre 1 et 9.
3.
3. Dites-moi, Jules, quelle est la casserole qui pend au nez de notre Églantine?
Églantine Arnoux, un jour déclaré à TV Magazine, « Je ne suis pas certain que le vaccin anti-Covid soit efficace. Il nous faut des preuves. »
Voilà.
Okay.
C'est pas une casserole, ça, tigre, c'est la vérité. Ça,
si vous voulez, vous amuserez à le répéter. Alors, qu'est-ce que c'est une casserole? Si toutefois, pendant un débat, vous rappelez la casserole à Églantine, même si elle gagne, quoi qu'il arrive, elle perdra une voix. Elle aura une voix en moins. Vous la gagnerez pas, mais elle aura une voix en moins. Nous allons avancer et vous allez choisir, cette fois-ci c'est une nouvelle partie, des nouveaux directeurs de campagne. Donc je les ai sous les yeux.
Ah oui.
J'ai Sansa du Trône de Fer, j'ai Eulalie, j'ai Re Etoven, Rémi H, Naradé, Cocopin.
Cocopin. Re-Entoven, c'est ça?
Re-Entoven, oui.
Oh,
Re-Entoven, Cocopin, Z comme Zorglub, Escobarix, Grand Piaf.
Non, Escobarix.
Cartaleos, Padel, on a qui? On a Captain Over, ça va trop vite là, ils veulent tous Batman, on a Noumeni.
Moi je prends Grand Piaf.
Grand Piaf, et il reste
Batman, du coup.
Batman et.
Moi j'ai pris Re-Entoven, moi.
Bon, alors c'est bon, vous êtes tous. Alors moi il faudrait juste que je les note. Donc.
Cocopin.
Alors Cocopin.
Cocopin.
Églantine c'est déjà Batman.
Batman.
Pour quelqu'un qui veut.
Toi c'est Grand Piaf.
Grand Piaf.
Et le dernier c'est.
Monsieur Entoven.
Entoven. Non, Entoven. Très bien. Il va être ravi. Ok. C'est parti. Petite chose.
Non, rien. Je voulais parler à Célia à la régie.
A-t-on déjà le résultat du sondage qui a été fait sur Twitter, ou faut-il un petit peu plus de temps? Les sondages que nous faisons se font sur Twitter, et d'ailleurs vous pouvez dire des petits tweets avec des petits hashtags, GORL2T c'est trop bien, comme ça France Info peut-être fera d'autres jeux de rôle avec. Voilà, donc on les a
ça
ou pas?
Ça manipule l'opinion, monsieur Tigre.
Et oui, c'est comme ça, c'est... donc c'est encore en cours, bon, on verra ça un peu plus tard.
Des problèmes d'oreillette, moi, mais c'est bon.
Problèmes d'oreillette, bon, très bien. Alors on va commencer, je vais commencer par Paul-Jacques Charenton, mais ça changera à chaque fois. Là, la campagne commence, Paul-Jacques, et Cocopin, ton directeur de campagne, oui, te dit il faut agir, il faut avancer.
Bien sûr.
On peut faire un meeting, si vous voulez. On peut trouver des casseroles sur vos adversaires. Les casseroles, souvent, c'est ce qui les fait chuter. Vous pouvez faire une déclaration de choc à la télévision, ou si vous voulez, vous pouvez vous préparer pour le meeting, vous pouvez vous reposer, vous pouvez lever des fonds pour que vos meetings soient éclatants. Qu'est-ce qui vous branche? Qu'est-ce qu'on peut faire?
J'ai eu l'interview horrible de l'affreux, mais oui, j'imagine qu'on va faire des meetings.
On part en
campagne, bien sûr.
On va faire un meeting. Donc, dans quelle ville on va pouvoir faire ce meeting? Peux-tu me donner une lettre de l'alphabet?
Une lettre de l'alphabet? M.
M, ce sera dans pas n'importe quelle ville. Alors, si on ne compte pas Paris, ce sera la troisième ville la plus populeuse de France, avec la plus de gens. C'est Toulouse. Toulouse, 486 000 habitants. Vous allez à Toulouse et on se bat pour 4 voix à Toulouse. Donc, c'est quand même énorme. Donc, Toulouse, on organise un meeting à Toulouse. Tu te rends à Toulouse et tu vas devoir faire un discours devant les Toulousains en disant, disons si c'était Paris, parisien, parisienne, virgule. Votre ville est exceptionnelle parce que... Mais le problème de votre ville, c'est ça. Et voilà.
D'accord, ok. Très bien. C'est parti, on y va.
C'est parti.
Toulousain, Toulousaine, ou Toulousaine, Toulousain, nous sommes ici réunis, bien entendu, pour un nouvel espoir. Enfin, oh, très joli réverb. Nous allons enfin changer de cap. Fini. Vous le savez, Arnoux, vous l'avez entendu pendant des mois et des mois. Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Non, c'est normal. De Spi, on ne sait pas. De Spi, voilà, on ne sait pas ce qu'il veut. De Spi, c'est effrayant, que des termes, des néologismes affreux. Il veut faire une Maj Windows sur nos retraités. Que veut-il? On ne comprend pas. Bon, le dernier venu, Nicolas Ferrial, voilà, en one man show, hein, c'est terrible. Ça ne fonctionne pas, on ne comprend pas ce qu'il veut, que des punchlines. Il est ridicule, il le sait, mais on l'embrasse. Non, il est temps de passer à autre chose, il est temps de reprendre espoir. Vous avez été abandonné depuis des années, à Toulouse, hein, je parle à Toulouse, évidemment, ville où il y a énormément d'étudiants. Et vous, les étudiants, vous êtes en première ligne, vous savez très bien que vous avez été abandonné. Notamment pendant la crise du Covid, combien d'entre vous sont retrouvés dans des logements insalubres, des cités universitaires lamentables, à lutter pour manger, à faire la queue pour des banques alimentaires, ou tout simplement à ne pas pouvoir vous épanouir. Vous le savez, nous avons le programme le plus social, le plus humain. Les jeunes, les précaires, hausse du SMIC, revenu minimum. Alors, pour les jeunes.
Je t'arrête, et je voudrais que tu me dises, Toulouse c'est super parce que...
Ah, et bien sûr.
Tu connais Toulouse et le problème de Toulouse, c'est ça, et comment je vais le régler?
Ah, d'accord, tout de suite.
Oui, tout de suite.
Toulouse. Oh, Toulouse, la ville rose, bien entendu, que j'apprécie. Ville magnifique, bien entendu. Estivale, remplie d'étudiants. Et comme je le disais, vous, les étudiants, vous êtes au centre, bien entendu, entre autres. Au centre de nos attentions, évidemment, et de nos préoccupations. Le problème de Toulouse, tout simplement le problème de Toulouse, c'est que justement vous les étudiants, vous avez été abandonnés. Et Toulouse, comme toutes les grandes villes, comme toutes les grandes villes, tout simplement, a le lot des problèmes qu'on retrouve dans toutes les grandes villes françaises. De toute façon, vous avez évidemment un taux de pauvreté haut, vous avez des gens qui sont abandonnés, vous avez des étudiants, comme je l'ai dit, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. C'est un problème de grande ville, c'est un problème qu'on doit évidemment régler. Je vous ai parlé donc du SMIC, du rehaussement pour les jeunes. On n'oublie pas nos retraités, évidemment. Je vous rappelle que les camps d'en face veulent, bien entendu, pousser la retraite à 99 ans, si possible, pour le revenu d'un RSA. Ils devront d'ailleurs sûrement travailler. On ne sait plus. C'est dur à lire, ces programmes.
Hein. C'est pas mal. La régie va lancer un dé. On ne rajoute rien parce que ça a été un petit peu laborieux.
Oui.
Le chat a dit laborieux quand même. Hein.
Ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a eu cette interruption là.
Son équipe de campagne avait promis que ce serait le meeting après sa première victoire. Peut-être s'était-elle un peu emballée. Paul-Jacques Charenton a convaincu la foule acquise à sa cause, mais le cadre n'était pas impressionnant. La scénographie, pas vraiment recherchée. Des images qui ne feront pas date dans l'histoire de la politique française.
Cependant, comme c'est une ville extrêmement non populeuse, on va dire, il y a un précaire, un retraité et un étudiant qui te rejoignent parce que tu t'es adressé à eux.
Oui.
Avant de passer à la stratégie politique électorale de Eglantine Arnoux, je crois que nous avons le résultat de l'interview fleuve de Léo Salamy qui est derrière moi. Vous l'avez vu ou pas, non?
Oui, c'est.
Et Paul-Jacques Charenton gagne tranquillement.
Il y a plein de gens qui sont arrivés après.
Les viewers, c'est vraiment des traîtres. C'est vraiment des traîtres.
Tu gagnes 3 voix pour ça.
C'est un hold-up. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués de votre politique.
Nous sommes à Paris, Paris 15e, dans le QG de Eglantine. Et Batman te dit, Batman, ton conseiller, Monsieur Batman, il dit bon. Le meeting à Toulouse, c'était pas génial. On peut espérer un meeting meilleur. Maintenant, est-ce qu'on aura la même ville? Je ne sais pas. Ça peut être une option. Ou alors, si tu te sens, parce que tu as fait un très bel interview, si tu te sens de faire une déclaration choc. Ou alors, tu as cette petite casserole que tu traînes et ils ne vont pas te lâcher sur le sujet. Tu peux essayer de reparler à la télé et de dire, non, en fait, j'ai dit ça, mais ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que tu en penses?
Je vais essayer de me débarrasser de ma casserole.
C'est une bonne idée. Donc, on te book un interview, tu passes sur BFM TV et l'intervieweur de BFM TV. Ouais, Bruce Toussaint. Bruce Toussaint te dit, tu le reçois le matin, il dit, alors, écoutez, on ne peut pas passer outre. Vous avez fait cette déclaration sur le vaccin, c'est ça? Est-ce que vous voulez revenir dessus?
Eh bien Bruce, je suis très contente que vous me posiez la question puisque effectivement je regrette profondément ces propos qui ont été un petit peu trop vite en besogne avec une crainte un petit peu animale si j'ose dire, alors qu'en fait j'aurais dû faire confiance à nos corps de métier et à notre recherche. Je retire complètement mes propos puisqu'à l'heure actuelle je suis triplement vaccinée et je suis prête à faire ma dose de rappel et je pense que la vaccination est un combat à mener en France pour lutter contre le Covid.
Eh bien, alors je me permets de rajouter une dernière question parce que je trouve cette déclaration choc très intéressante, mais je n'ai jamais vu de politique admettre ses erreurs. Seriez-vous la première ?
Eh bien oui, je veux montrer aux Français que nous sommes capables de nous tromper effectivement et revenir sur des erreurs que nous avons commises dans le passé et rassurer les Français en leur disant que moi aussi j'ai eu peur, mais il n'y a rien à craindre.
Très bien. Eh bien, plus un au lancer de dés parce que c'est extrêmement convaincant. Je vous écoute. Je le lance, je regarde plutôt le lancer.
On va rajouter de la macronie.
Roll the die. Il nous faut un dé. Le dé, il part. Je le vois. 5, 6. 6. Alors, attends, avant d'avancer, est-ce que tu as un adversaire autour de cette table? Ton adversaire, c'est qui?
Mon adversaire, globalement tout le monde.
Mais l'adversaire juré, celui que tu détestes.
Genre, au hasard, le favori qui va rouler sur tout le monde. Ça fait rien.
Mon cher monsieur Charenton.
Ce sera ton adversaire. Je t'écoute, Jules. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ce qu'on appelle faire coup double et refiler la patate chaude. Les explications d'Eglantine Arnoux sur cette sombre déclaration, le ton qu'elle a adopté, ont fait mouche. Plus personne ne doute de sa bonne foi, ne lui reproche cette histoire. Et au contraire, une nouvelle affaire émerge dans cette campagne, dévoilée par les soutiens de la candidate. Elle vise un de ses adversaires et risque de faire grand bruit.
Alors, Paul-Jacques Charenton, tu vas me dire un chiffre entre 1 et 9. Qui n'est pas 8. Alors, Jules, quelle est cette rumeur qu'on entend au sujet de Paul-Jacques Charenton?
Paul-Jacques Charenton, à la question « Quel livre vous a le plus marqué ?» a répondu « Zadig et Voltaire, parce que c'est une leçon de vie et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent. »
Donc, si vous parlez de Zadig et Voltaire, enfin, il perdra un point à chaque débat, d'accord, à moins que tu dissolves cette casserole. Sachez également que Eglantine s'est tellement bien défendue qu'elle a convaincu vos propres voix, donc vous allez chacun lui donner une voix. Quoi ?
C'est de la folie.
Vous avez le choix. Par un militant, bien sûr.
La bonne raison.
Il faut que je te donne quelque chose que tu vas reperdre vite fait, toi.
Allez, on agit vite.
Ça joue méta.
C'est un très grand moment, cette histoire de Zadig et Voltaire, hein, de la Sarkozy. Ça.
Oui, tu peux rappeler que toutes ces casseroles sont véridiques. Hein.
Rappelons que toutes les casseroles du jeu sont véridiques. Vrai. Et si vous êtes trop jeune pour avoir vécu Zadig et Voltaire...
Oh, c'était 2007-2012, c'est pas non plus...
Ouais, il s'en est passé des choses à cette époque-là, en plus.
FL, les initiales.
Il y avait le fils de Sarkozy, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, qui étaient... Bref, c'était très intéressant.
Un temps rêvé pour les casseroles, c'est ça que tu veux dire.
C'était... Des fois, on se plaint que les politiques d'aujourd'hui, mais avant, c'était aussi... En tout cas, Charles de Spi, Eindhoven vient de voir. Donc, vous êtes dans le data center d'OVH, qui est ton quartier de campagne, j'imagine.
Tout à fait. Je suis installé sur le plateau de Saclay.
Voilà, très bien. Et il dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas mal, cette histoire. T'as vu, Eglantine, elle a réussi à donner une casserole. On peut faire du data mining sur tes adversaires, si tu veux. Mais sinon, on peut faire un meeting. On peut faire une déclaration choc à la télé. Qu'est-ce qui t'intéresse?
Je vais faire un meeting pour une déclaration choc.
Non, alors, déclaration choc à la télé ou un meeting. Un meeting, c'est on se déplace dans une ville, on s'adresse à des gens. Mm-hmm. La déclaration choc, tu es tout seul et tu t'exprimes sur un sujet précis.
Qu'est-ce qui rapporte le plus de voix?
Alors, si c'est une grande ville, ça peut être un bon meeting dans une grande ville, ça, c'est le banco. Tu peux faire un hold-up. Mais une déclaration choc, t'en auras moins, mais au pire, t'en perds peu.
Très bien. Je vais aller faire un meeting à Calais.
Ah non, tu choisis pas.
Je vais pas choisir.
Il faut que tu me dises une lettre entre un L de l'alphabet.
Ah, une lettre de l'alphabet, ou la lettre H, allez.
La lettre H. Alors, le seul meeting qui te trouve, c'est un meeting à Tours.
J'ai déjà été à Tours.
Ah, t'as déjà été à Tours. Alors, vas-y, dis-moi une autre lettre.
La lettre V.
V. Alors, il te trouve une autre ville que j'affectionne particulièrement et que je salue, qui est Toulon. Toulon, 176 000 habitants. On se bat pour 3 voix, quand même, l'air de rien. Donc, tu te retrouves à Toulon. Et tu vas faire, parisien, parisienne, virgule, votre ville est exceptionnelle parce que, mais Toulon a un véritable problème et je vais le résoudre. Alors vas-y.
Toulonnais, Toulonnaise. Je suis déjà ravi de venir vous rejoindre sous ce soleil radieux dans cette région magnifique. Et j'aime la région, évidemment, de Toulon. J'ai passé toutes mes vacances entre Guerre, Carcaran. C'est vraiment une région que j'aime d'amour. Mais c'est une région et c'est une ville que j'ai vu, évidemment, se dégrader. Pourquoi l'insécurité et l'immigration rampantes, malgré le fait eh bien, que le Front National et le Rassemblement National aient tenté un petit peu de diriger cette ville. Ils n'ont évidemment pas été extrêmement efficaces. Comment vous débarrasser de l'insécurité? Comment vous débarrasser de ces gens qui rôdent? De ces gens qui amènent aussi parfois certains aspects de leur culture qui nous dérangent, nous Français? Ce n'est pas que des expressions à base de karcher, bien sûr qu'on va faire ça. Je vous propose évidemment d'augmenter la sécurité avec des caméras et des drones que ma société évidemment produit et fournit depuis des années, qui ont fait leurs preuves dans différents pays où l'ordre règne. Et je serai, si je suis élu président, eh bien Toulon sera ma ville pilote pour tester des caméras de surveillance mobiles.
Je te rajoute un point au jet qu'on va faire, sachant que par exemple, c'est un discours qui a convaincu une ville toute proche, qui est Nice, où Estrosi a fait mettre plein. C'est la ville qui a le plus de caméras de surveillance et pourtant.
Ça se tire la bourre avec le Valois-Perret, mais.
Voilà, c'est ça. Mais oui, à Nice, il y a quand même beaucoup de. En tout cas, voilà, on va lancer les dés et rajouter un point. C'est un 5, Jules. Que s'est-il passé?
Le sans faute pour Charles de Spy. De l'avis de tous les analystes, on savait que c'était un grand orateur, mais il l'a une fois de plus démontré devant une large audience dans cette salle, tout comme à la télévision d'ailleurs. Il a précisé avec clarté plusieurs de ses mesures. Il a aussi su se montrer virtuose et emporter l'auditoire lorsque quelques opposants, même si on ne l'a pas vu lors des images à la télévision, se sont faufilés au premier rang, ont lancé des œufs et des tomates en sa direction, mais il a rebondi.
Et oui, ça s'est très bien passé. Non seulement tu gagnes les 3 voix, mais tu en gagnes une de plus. 4 voix. Une classe moyenne, un super riche qui traînait par là et qui était sensible à ça, un retraité pour qui la sécurité n'est pas rien, et un entrepreneur qui se dit il va y avoir du business. Enfin, nous sommes dans le cirque d'hiver qui est ton QG de campagne.
Enfin, pas de mépris, Tigre, pas de mépris.
Vous êtes où à la théâtre de la.
On est dans mon QG de campagne, un QG loué dans un quartier populaire de la banlieue parisienne.
Très bien.
Alors, je réside moi-même.
Très bien. Donc, on est dans ce QG avec Grand Piaf, et Grand Piaf te dit. Je le sens bien, déclaration choc, mais peut-être tu veux faire...
Bien sûr, Grand Piaf, bien sûr.
Alors, on plutôt CNews, parler. BFM, France Info sur la 27 de la TNT, TF1, France 2
Non, ma proposition choc, elle est faite comme toutes mes propositions choc.
Sur Télébocal
sur mon Facebook Live. Pas de mépris, Tigre.
D'accord.
Ça va mal se passer. Alors, c'est là qu'on voit les journalistes vendus. Allez-y,
Tu dois t'exprimer sur soit l'immigration, soit les services publics, soit sur la sécurité, soit sur l'écologie, soit sur la retraite, soit sur la diplomatie extérieure et l'armée. Tu es sur ton Facebook Live, tous les gens sont connectés et t'écoutent. On t'écoute.
Chers amis, vous me suivez depuis longtemps. Ensemble, nous avons présenté notre candidature. Ceci, vous le savez, c'est ma dernière blague. Celle qui a commencé lors de mon précédent spectacle il y a maintenant un mois et qui se finira dans 3 mois à l'Élysée. Et cette blague, nous arrivons à sa chute. Et la chute est la suivante. Une opération main propre, mes amis. Si vous m'élisez président de la République, nous allons lancer la plus grande opération main propre que la France ait connue. Nous allons recruter 10 000 inspecteurs des impôts, 3 000 magistrats au pôle national financier et lancer les enquêtes qui auraient dû être lancées depuis bien longtemps sur tous les responsables politiques de ce pays, sur tous les grands patrons de toutes les grandes sociétés. Et nous ferons condamner durement toutes celles et tous ceux qui se sont rendus coupables de malversations et qui ont spolié l'argent du bon peuple.
C'est noté, donc la tagline c'est Opération Main Propre.
Absolument.
On lance un dé, on rajoute un parce que c'est bien défendu. Alors, c'est un 6, Jules, que s'est-il passé sur le Facebook Live?
Le fond et la forme pour Nicolas Ferrial. À chaque fois, il vit juste et cela se ressent dans les sondages, résume un expert en communication politique sur France Info après cette dernière déclaration choc. Il a une nouvelle fois fait le buzz grâce à des propos qui dénotent des annonces marquantes. La presse comme les Français réagissent et s'empare d'ailleurs de ces propositions.
Exactement, donc Opération Main Propre, c'est la nouvelle tagline de ton parti. Tu gagnes une voix de précaire qui est sensible à ça et sache que à chaque débat, quand tu diras opération main propre, tu gagneras une voix, quoi qu'il arrive. Voilà.
Entendu.
Je me tourne vers Églantine. Églantine, tu vas vivre des aventures lors de ton aventure, enfin, de ton, ta campagne. Dis-moi un chiffre entre 1 et 18.
12.
12. L'écologie, ça commence à bien faire. Alors, il y a une... On va en parler dans deux minutes. Attendez, il y a un petit son, mais ne l'envoyez pas tout de suite, la régie. Donc, tu as un ancien associé qu'on va appeler... On va l'appeler Luminis. Donc, c'est Monsieur Luminis, d'accord ? C'est un ancien soutien de ton parti. C'est ton meilleur ami de 20 ans. Mais il a des idées un petit peu étranges par rapport à toi. Et un jour, il a déclaré à la télévision, mais c'était il y a longtemps, ceci. Vous pouvez envoyer le son.
Bon, l'écologie, ça commence à bien faire là. Hein. Ce n'est pas les éoliennes qui servent à rien qui vont sauver la planète. Hein. Surtout que la planète, elle n'est pas en danger, OK ? On va peut-être un peu lâcher la grappe à nos amis chinois. Hein. Ils ont le droit d'avoir des voitures quand même. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est 70 millions qu'on devrait avoir deux voitures et qu'eux, ils sont 2 milliards et ils devraient quoi ? Rester en vélo ? L'écologie, c'est du racisme.
Il a dit ça. Et à l'époque, tu n'étais pas un cadre ultime du parti, mais le parti lui a dit « va voir ailleurs, ce sera mieux ». Il est devenu, avec le temps, maire d'une grande ville du Sud-Ouest, voilà, Béziers. En fait, il s'est attiré l'amitié de 1 million de personnes, 500 000 retraités, 500 000 du précariat. Et là, maintenant que tu t'es présenté, il a été interviewé, il a dit « Je tends la main à Églantine, je veux organiser la grande réconciliation autour du verre de l'amitié. » Est-ce que tu acceptes ?
Alors, la question, c'est que ses propos, il les maintient, en fait.
Ah oui, tout à fait.
Ouais, il les maintient. Mais il a 1 million de lecteurs, quoi. On pourrait faire une grande consultation, non ?
Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi ?
Je réfléchis. Ça me paraît tendu comme alliance, quand même.
Le joker de la couronne de consultation.
Est-ce que je peux reprendre contact avec lui sans forcément que ce soit public ?
Tu veux l'appeler ?
Je voudrais l'appeler.
D'accord,
pour qu'on...
D'accord, tu l'appelles au téléphone. C'est moi, je suis Luminis. Alors Églantine, c'est bon, on va faire le verre de l'amitié, t'es d'accord ?
Allô Luminis, alors ça va et toi ?
Moi écoute, je vais bien, je vois que ça marche bien pour toi.
Oui, ça marche bien.
Tu sais que moi, si je t'apporte mon soutien, toute ma ville vote pour toi. Hein,
Certes, mais alors tes propos par rapport à l'écologie, t'as un petit peu évolué par rapport à ça ?
Mais je peux pas évoluer puisque les gens qui me suivent, ils sont persuadés de ça. C'est parce que j'ai dit ces choses-là. Et j'ai dit des choses bien pires d'ailleurs.
Bon, le ministre, je pense qu'on va pouvoir boire un verre, mais ça s'arrêtera là.
Tu veux pas de mon soutien ?
Ben, c'est pas que je veux pas de ton soutien, c'est que là, j'ai l'impression que tu es à contre-courant des Français et que du coup, ça ne va pas pouvoir être possible entre nous.
Très bien. Alors, il raccroche. Premier servi, premier venu, premier servi. Est-ce que quelqu'un veut appeler Luminis ?
Ah, moi, j'appelle Luminis immédiatement.
Oui, tu l'appelles. Alors, bon, allô ?
Oui, monsieur Luminis.
Oui.
Comment allez-vous ?
Écoute, je vais bien, ça me fait plaisir.
Comment ça va, Béziers ? C'est toujours une aussi belle ville.
C'est une ville magnifique. Vous pouvez venir quand vous voulez. Je ne fais pas l'accent, mais ouais. C'est une ville magnifique.
C'est une ville sécurisée en plus, c'est bien, ça fait plaisir.
Mais oui, voilà.
J'ai lu vos avis sur l'écologie, etc. Je pense qu'on a des points un peu communs.
Est-ce que vous voulez que je vous soutienne ?
Vous pouvez me soutenir. On serait dans une, j'ai envie de dire, dans une contestation de l'opinion mainstream autour de l'écologie qui, je trouve, propose un programme complètement lunaire et utopique qui est impossible à faire. On ne va pas survivre avec des ventilateurs géants dans des champs.
Donc qu'est-ce qu'on fait ? Vous venez à Béziers et on fait une grande fête et on dit que je soutiens officiellement votre parti. Ça va ?
Tout à fait.
Alors tu gagnes immédiatement les deux voix. Tu perds un militant.
Ah, je perds un militant.
Oui, tu perds pas, en fait, il devient voix.
Ah oui.
Et si, vas-y, donc tu perds ton militant.
Je perds un militant du précariat.
Et est-ce que tu as un bobo disponible qui n'est pas militant ?
Oui.
Eh bien, tu me le donnes.
Oh.
Voilà. Et tu as le droit. Alors, il y a une grande fête qui se fait à Béziers. Et tu peux, si tu veux, faire comme c'était un meeting, tu fais un discours. Tu veux ou pas ?
Oui, bien sûr.
C'est parti.
Mes amis de Béziers, nous avons discuté avec Luminis sur l'écologie. Ce n'est pas une question d'avis sur l'écologie précisément, mais c'est l'envie de tordre le cou à des programmes complètement fantaisistes sur l'écologie. Pensez-vous vraiment qu'on peut sortir comme ça de l'automobile ? Pensez-vous vraiment qu'on peut sortir comme ça du nucléaire ? Avec mes nouvelles technologies, on pourra le faire, mais de manière plus efficace. Je pense quand même qu'il faut rester encore pendant quelques années dans les voitures thermiques. Encore une fois, les voitures électriques ne vont pas tout sauver. Hein. Le temps qu'on arrive aux voitures autonomes, que je vous promets évidemment. Et le nucléaire, je vous rappelle que le nucléaire, hein, pour les antinucléaires qui pensent qu'on peut vivre sans, c'est comme l'huile de palme du Nutella. Tout le monde critique l'huile de palme, mais en fait, on se rend compte que si on devait remplacer l'huile de palme par autre chose, la catastrophe écologique serait 10 fois pire.
Alors, je t'arrête. On va lancer les dés, mais malheureusement, on va enlever un point, parce que déjà, t'as pas dit cher Bisontin, je crois.
Ah,
que
c'est Biterrois,
Allez, Biterrois.
Est-ce qu'on peut enlever un point au MJ aussi, du coup?
Pourquoi? Non, mais... Alors, c'était quoi le dé?
C'était un.
Ah, bon, on peut pas aller plus bas. Pour un meeting, on est d'accord. Hein.
Voilà, c'est ça.
L'alliance, il coûte cher.
Charles de Spy était-il particulièrement fatigué? Avait-il la tête ailleurs? En tout cas, le candidat était en très petite forme. Ses propos ont été jugés brouillons, sinon maladroits. Il lui reste quelques jours pour se ressaisir et montrer qu'il a la capacité de diriger la France.
Tu gagnes un souvenir douloureux et tu perds encore un militant. C'est-à-dire que le militant devient une voix normale.
Ah là là, je vais mettre les étudiants.
Voilà. Ça a été, voilà.
C'était pas très rentable, le ministre Fourcan.
Justement, je me tourne vers toi. Ouais. Dis-moi un chiffre entre 1 et 18.
Le 1.
Le 1. C'est encore quelque chose qui va... ça s'appelle rencontre religieuse. Et tu as quelqu'un qui t'appelle. Il se trouve que c'est le pape François Ier. Est-ce que tu décroches ou pas?
Oui, bien sûr, je décroche.
Alors,
le
pape t'appelle.
Bonjour, mon enfant. Ici le pape François Ier. Notre église pense que vous êtes bien placé pour gagner les élections et devenir le chanoine de Latran. J'aimerais m'entretenir publiquement avec vous, devant nos fidèles, sur la place Notre-Dame, afin d'évoquer divers sujets.
Est-ce que tu acceptes?
Évidemment.
Donc, on organise une rencontre, c'est quelque chose d'un peu d'exceptionnel, avec le pape Charles de Spy, qui ne t'es jamais déclaré comme religieux.
Non.
Et d'ailleurs, une question de Léo Salami juste avant, mais vous êtes religieux, vous croyez en Dieu?
Je crois en une forme supérieure d'intelligence, qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est une forme de divinité, j'ai envie de dire. C'est une forme de divinité. Je vous rappelle qu'il y a aux États-Unis une église de l'intelligence artificielle. Donc, sur ce point, le pape et moi sommes d'accord. Sur le deuxième point où nous sommes d'accord, c'est que je pense que les hommes doivent avoir une autorité supérieure à eux pour que la société puisse marcher. Encore une fois, Dieu est une création, une créature extrêmement pratique pour nous, extrêmement utile. Et c'est pour ça que je soutiens des religions, attention, qui ne mettent pas non plus le bordel dans la société.
Alors, le pape, t'as entendu, il est un petit peu horrifié. Cela dit, tu montes l'estrade et devant un pape François Ier, très ouvert mais un peu troublé, tu vas te poser quelques questions devant les journalistes. Donc, notamment, beaucoup de catholiques et de chrétiens en France sont en train de te regarder, mais aussi un public, parce que c'est une rencontre un peu inhabituelle. Le pape te dit, mon enfant, est-ce que l'Église catholique peut faire quoi que ce soit pour vous?
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'elle peut faire?
L'Église catholique peut adouber un nouveau roi. Et je pense que pendant longtemps, les royautés et l'Église, lorsque le pouvoir n'était pas séparé, ont plutôt fait un bon duo.
Est-ce que vous voyez la présence de Dieu en France?
D'une certaine manière, oui.
Que pensez-vous du traitement du rapport sauvé? Ça vous dit quelque chose, le rapport sauvé?
Je ne suis pas sûr de
les
connaître.
Crimes sexuels dans l'Église en France?
Ah oui, tout à fait.
Que pensez-vous de ce rapport?
Il faut punir, évidemment, les coupables, mais ne pas remettre en question toute l'Église. Not all priests, comme on dit souvent.
Que pensez-vous des intégristes religieux? De tous bords.
Écoutez, il y a intégristes religieux. Je trouve que certains sont beaucoup plus nocifs à la France que d'autres. Et certaines religions, je trouve, ont un rapport nombre de croyants par rapport au nombre, on va dire, d'accidents et de violences, on va dire, plus grave que d'autres.
Voulez-vous que je vous bénisse?
Pourquoi pas?
Donc, le pape te bénit et tu gagnes un retraité et une classe moyenne. Mais tu perds tous tes bobos. Voilà.
Ok. Oui, de toute façon, ils allaient partir tôt ou tard, ces gens-là.
Très bien.
Ils vont là où le vent va.
Nicolas, un nombre plutôt entre 1 et 18.
Eh bien, le 17.
Le 17. Tout le monde, il est content.
C'était pour moi.
C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas en France, Tigre.
Nicolas Ferial, tu es reçu dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. Est-ce que tu veux bien venir? Veuillez aller à cette émission.
Oui, j'y vais.
Donc, après quelques amabilités où tu peux sortir des phrases intéressantes, le présentateur te dit ceci. Écoutez, je sais que vous êtes un ancien humoriste et justement, je voulais vous faire part de quelque chose. Selon le World Happiness Report de l'ONU, donc le report de bonheur du mondial, la France est le 20e pays le plus heureux et le seul parmi tous les pays pendant la pandémie qui a gagné des rangs dans la liste. C'est le seul qui a monté. Pourtant, j'ai l'impression que chez les Français, il y a beaucoup de mécontentement. Comment vous expliquez ça ?
Alors, il faudrait déjà savoir comment sont faites ces études, Tigre. Enfin, vous avez vu, comme moi, ce qui s'est passé dans la pandémie. Vous les avez vus ou pas ? Ces files d'étudiants qui n'avaient plus de quoi manger. Mais enfin, on est en France, oui ou non ? Vous les avez vus ou pas ?
Mais pour vous, le bonheur, c'est important ou pas ?
Mais il y a quoi d'autre ? Quoi d'autre que le bonheur ? Sinon ceci, quelle autre ambition pour l'être humain que d'être heureux en société ? Et quel institut de sondage manipulé, parce que ça ne peut être que cela, obéissant à un intérêt supérieur, je ne sais pas lequel, mais comment pourrait-on aboutir à cette conclusion absurde ? Que les Françaises et les Français auraient été plus heureux enfermés chez eux, ne pouvant plus sortir.
Alors, j'ai compris, mais donc vous êtes sensible au bonheur.
Vous me rassurez.
Vous êtes sensible au bonheur.
Absolument.
Vous, président, vous voulez donner du bonheur aux Français, on est d'accord ?
Bah, ça me semble bien la moindre des choses.
Qu'est-ce que, alors moi, par exemple, aux Français qui vous regardent en ce moment, quelles mesures vous allez prendre qui seront plus heureux ? Ils auront du bonheur. Donnez-nous un exemple.
Non mais alors écoutez, alors il faut commencer par le commencement. Mais vous posez, alors une fois n'est pas coutume, Tigre, vous posez une très bonne question. Je vais commencer par le commencement. Avant d'être plus heureux, il faut être moins malheureux. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même l'essentiel. Je baisserai, je l'ai déjà dit, je le répète, la TVA sur les produits de première nécessité. Les gens n'ont plus d'argent, Tigre. Enfin, c'est pas
possible.
Mais
vous pensez que ça les rendra heureux ?
Encore une fois, la première condition du bonheur, c'est l'absence de malheur. Ensuite, on construit ensemble. Donc, commençons par là. Après, vous parlez à un chansonnier. Évidemment que j'aime l'art, la culture, l'humour. Bien sûr que dans notre pays, en France, on va continuer de stimuler cette création artistique et culturelle qui est si importante. Mais commençons par le commencement, si vous le voulez bien. C'est sérieux, Tigre, la politique. Donc, d'une part, nous allons commencer par baisser la TVA sur les produits de première nécessité. D'autre part, nous allons aller faire les poches de tous ces milliardaires qui cachent leur argent ici et là, qui fraudent le fisc, qui volent les Français. Et avec cet argent, oui, nous allons créer du bonheur, du service public, redistribuer un peu de pognon. Enfin, quand
alors,
même, nos
devant
Français
la télévision,
le méritent.
Il y a plusieurs personnes, et il y en a deux en particulier qui sont convaincus. C'est les précaires, redistribuer l'argent, et les bobos, investir dans l'art. Est-ce que tu as une préférence entre les précaires et les bobos ?
Non mais alors, écoute...
Je te donne celui que tu veux.
Moi, je m'adresse avant tout à la France qui souffre,
c'est-à-dire les précaires,
nos amis précaires, bien sûr.
Les bobos, c'est vous qui souffrent.
Mais les... oh là là, on en parlera de speed, tout ça.
Monsieur Paul Charenton, dites-moi un chiffre entre 1 et 18.
13.
13. Alliance Rebelle. Alors, ça va... vous recevez un coup de fil. Est-ce que un coup de fil de la police ? Est-ce que vous avez envie de décrocher ?
La République, c'est moi, mais je réponds quand même.
Alors, c'est parti. Coup de fil.
Bonjour, monsieur. Ici le responsable du syndicat de policiers Alliance. On organise une rencontre entre les fonctionnaires de police et les politiques. Vous aimez la police, pas vrai ? Il y aura Darmanin. Les autres ont accepté de venir, vous savez.
Alors, on n'a pas trop entendu, est-ce que vous pouvez le repasser ? Je suis désolé, on a eu un message qui ne nous a pas fait entendre.
Bonjour monsieur, ici le responsable du syndicat de policiers Alliance. On organise une rencontre entre les fonctionnaires de police et les politiques. Vous aimez la police, pas vrai ? Il y aura Darmanin. Les autres ont accepté de venir, vous savez.
Est-ce que tu veux te rendre à ce meeting créé par, alors pourquoi Alliance Rebelle, le syndicat Alliance de la police ?
Absolument pas.
Tu n'y vas pas ?
Non, le syndicat Alliance, il me semble que oui, non, c'est... non, c'est pas des gens...
C'est pas tes alliés naturels.
C'est pas des gens avec qui j'ai... Surtout s'il y a Darmanin, non mais là, faut arrêter. Faut un petit peu arrêter de... Voilà, hein.
Alors, tu gagnes un militant.
Oui.
Tu gagnes un militant. Voilà, qui devient militant chez toi ?
Allez, quand même, un étudiant.
Alors, premier arrivé, premier servi, mais Charles de Spice est déjà rué sur quelqu'un. Donc, est-ce que... Premier arrivé, premier servi, est-ce que Églantine... où Nicolas veut se rendre
à
ce meeting.
Sûr.
On n'a pas le droit de tous y rendre.
Non, il a, j'ai dit premier arrivé, premier asservi. Donc,
je tente. Mais non, je fais la consultation.
Alors, Nicolas, donc il y a plusieurs candidats à la présidentielle, mais cette aventure est véritablement arrivée. Ça s'est passé dans un cinéma du 17e arrondissement. Et effectivement, à l'instar de Paul-Jacques Charenton, seuls, on va dire, certaines politiques comme Marine Le Pen ou Zemmour se sont rendus pour parler devant les policiers. Tu vas parler devant des policiers et tu as des votants de classe moyenne qui sont devant toi. Je te cite des phrases réelles de ce meeting qui ont été dites et tu pourras t'en inspirer pour faire une déclaration de 30 secondes. Donc, quelqu'un a dit « Le problème de la police, c'est la justice laxiste. » Donc, applaudissements. « Les suicides de policiers sont intolérables. » Vous êtes devenu les gibiers, vous devez redevenir des chasseurs. Je sais que vous, c'est vraie phrase, hein. Je sais que vous aimez votre métier, je veux que vous le fassiez avec le sentiment d'être soutenu. Je vous promets un électrochoc d'autorité. Toutes ces phrases ont été accueillies avec des applaudissements.
Avec les ours.
À toi.
Chers amis, car vous êtes des amis, je sais que je m'adresse à des bonnes gens du peuple. Vous êtes là pour protéger et servir, protéger les Françaises et les Français et servir votre État. Et je sais les malheurs qui vous affligent. Je sais le nombre de suicides dans la police. Je sais à quel point vous êtes désarmés jusqu'à vos outils les plus élémentaires pour dans votre travail. Alors, écoutez-moi bien. Avec moi, nous aurons d'une part une grande opération main propre parce que le problème de la police, c'est les politiques. Ce sont les politiques qui, année après année, ont tondu le service public policier. Ce sont les politiques qui, année après année, n'ont pas investi les crédits pourtant nécessaires. Je sais ce que vous avez vécu sur les Champs-Élysées où une partie d'entre vous avait dû aller à Décathlon acheter votre propre matériel de protection. Je sais tout ça. Alors avec moi, nous allons aller faire les poches de tous ces politiques qui se sont engraissés sur le dos des fonctionnaires. Et nous allons enfin redonner les moyens à la police de faire son travail parce que je sais que vous, les policiers, c'est la seule chose que vous voulez, faire votre travail.
J'ai bien entendu. Alors, je suis un peu partagé en tant que MJ parce que je ne sais pas si ça plairait aux policiers tout ça. Donc, dans le doute, je te donne un classe moyen.
Je pense que ça plairait aux policiers, en vrai.
D'accord, bah, je te fais confiance.
C'est plutôt élogieux. Tout ce que j'ai dit est vrai, hein.
Et c'est déjà, nous sommes sur France Info, France Télévisions, notre grand rendez-vous de débat. Vous allez pouvoir
Attends,
débattre.
Juste une parenthèse. Ce que j'ai dit qui est vrai, c'est qu'il y a des policiers qui ont dû acheter leur équipement de protection sur les Champs-Élysées. Oui. Le reste, non.
Non, mais voilà. Nous allons parler. Alors, nous sommes devant 4,9 millions de téléspectateurs. Vous êtes tous réunis pour parler d'un thème. Et ce premier thème, ce sera les retraites.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.